De retour sur le direct de Radio Barthas, où nous sommes ce soir avec Antoine Page, le réalisateur de C'est assez bien d'être fou. Donc comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, c'est un road movie en dessin et en film où on traverse une partie de l'Europe et une partie de l'Asie. Et donc bah, la première question, c'est quoi ce titre? Parce que même quand on voit le film, en fait, on voit bien que vous êtes un peu fou quand même.
Mais surtout, en fait, ce qui est important, c'est le « assez », parce qu'il ne s'agissait pas d'être péremptoire ou dire « on est fou ». Je ne sais pas si on est fou. C'est assez bien d'être fou, c'est une folie douce, c'est un appel, en fait, à partager cette folie, c'est performatif. Nous, en fait, ça vient à l'origine de l'abécédaire de Deleuze, qui le dit au cours de... Enfin, justement, de l'abécédaire, pardon. Et nous, ça nous intéressait d'avoir quasiment ce titre programmatique. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas... C'est faites des folies, qui en sont peut-être pas, mais allez-y, faites les choses, ne vous posez pas de questions. Enfin, nous, c'était un peu ça, c'est qu'on a à la fois surpréparé, et à la fois c'était aux trois quarts improvisé. Donc c'était cet appel à faire les choses, plutôt.
C'est un titre et une ligne de conduite que vous aviez dès le début du projet ?
Oui, même avant d'avoir, en fait, le titre du film, c'était un peu notre approche. C'est pour ça qu'on s'est assez bien entendu avec Bilal, c'est que... on partageait un tempérament, parce que moi, si j'ai choisi de bosser, enfin de travailler avec lui, c'était avant même de voir ce qu'il faisait, et réciproquement, en fait. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de ma productrice, et on a commencé à discuter, et il a été évident, au bout de 5 minutes de conversation, qu'on allait partir sur un projet qui nous a pris 4 ans, en fait. C'est difficile à décrire, en fait, quand on s'entend vraiment avec quelqu'un. Disons que c'était justement ne pas prendre en compte les contingences, les choses soi-disant impossibles, ou se dire non, c'est trop compliqué, comment on va faire. C'est faire les choses et voir si on pouvait les faire, en fait.
Oui, et le résultat, c'est que vous avez pu le faire, puisqu'on a ce film et cette expérience que donc, les auditeurs vont pouvoir découvrir. C'est demain à Florac et vendredi à Espagnac. Avec toi, mais peut-être justement, est-ce que tu veux nous raconter cette aventure, mais en amont, comment ça s'est... parce que en 5 minutes, vous avez compris que vous pouviez faire des choses ensemble, vous n'êtes pas parti le lendemain.
Non, ça a été très long, il y a eu une longue période de recherche. Alors au départ, c'était Bilal qui avait juste le projet de partir, alors il ne savait pas où, mais il voulait tracer la route. En gros, il s'était dit pourquoi ne pas partir avec un réalisateur qui pourrait filmer ça.
On a oublié de vous présenter, donc toi tu es le réalisateur de ce film, ouais. Et Bilal, dont on parle, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, qui est malheureusement disparu, était graffeur.
Voilà, sous le nom de Zoo Project.
Voilà.
Sous le nom de Zoo Project, ouais. Graffeur, je ne sais pas si c'est le titre qui lui convient, mais...
Ouais, c'est difficile à dire.
Peintre, artiste.
Dessinateur, oui, peintre, ouais. Et donc, oui, il s'appelle Bilal Bérény, hein, son nom. Et donc, on s'est rencontrés sur ce postulat, donc partir, tracer la route. Et voyant qu'on s'entendait, moi, je lui ai proposé de réorienter un peu le projet. Et plutôt que d'être, disons, spectateur de ce qu'il aurait fait en peinture, c'est plutôt de l'investir, de l'impliquer dans le processus de narration. Lui proposer, en fait, de faire un film sur un voyage. Et de réfléchir à la construction d'un film. Est-ce que, justement, certains moments qu'on aurait vécu pourraient être mieux retranscrit par du dessin ou par la vidéo, enfin vraiment réfléchir à ça. Et donc là, ça nous a permis d'entamer une véritable collaboration dès le départ. Donc on a beaucoup réfléchi, beaucoup expérimenté, beaucoup testé de choses, déjà pour monter le dossier de demande de subvention, donc, et ensuite pour voir dans quelle mesure justement c'était possible de raconter à deux voix, en fait, avec à travers deux prismes différents, en fait, deux sensibilités différentes, un même voyage.
Tu parles plus effectivement de sensibilité, enfin à deux voix on vous entend très peu dans le film, c'est-à-dire que c'est un film à la première personne, enfin première personne du pluriel, mais à la première personne quand même, mais vous élevez très peu la voix, enfin vous parlez très peu, quoi.
Ouais, c'est assez silencieux, en fait. On se parle un peu au début quand il y a les aléas avec les pannes de camions et tous ces tracas-là. Mais après, ben, c'est un peu ce qui nous est arrivé pendant le voyage. C'est-à-dire qu'on a fini par, peu à peu, se laisser emporter. On ne savait pas trop vers où. Nous, notre but au départ, on s'était dit on va à Vladivostok. Mais on n'avait aucune carte, quasiment. On n'avait rien. On ne savait pas trop. Mais on voulait aller au bout du bout. Symboliquement, on trouvait intéressant d'être bloqué, en fait, à l'extrême est de la Russie. Et donc, au départ, on interférait sur le trajet. trajet parce qu'on était en camion, donc on pouvait choisir des routes. Mais après, une fois que le camion est tombé en panne, là, on était dans un train et donc il filait à travers la Sibérie. Et c'est vrai que là, avec, y a eu une raréfaction de la parole petit à petit. Et on a décidé de dépeindre des ambiances parce que c'était les ambiances qu'on ressentait nous. En fait, on discutait très peu, mais c'était très riche au niveau des rencontres, au niveau des bruits, au niveau des sensations. Et c'est pour ça que là, on a fait un film beaucoup plus empirique que ce qu'on imaginait peut-être faire au départ. Hein. C'est-à-dire vraiment, comment est-ce qu'on va réussir à faire sentir ce voyage, cette perte, en fait, petit à petit, à mesure qu'on s'enfonce, justement, en Sibérie, en territoire inconnu, comment nous aussi, on perd la prise sur le voyage.
Quoi. Parce que c'est ça, en voyant de loin le descriptif, un voyage et du graphe, j'avais en tête peut-être des courses-poursuites avec des flics, on grimpe à l'arrache pour aller taguer un coin de mur, un peu comme ça a pu se faire dans en fait, Le Mur ou plus anciennement dans Wild Style. Enfin, il y a une histoire en fait, des films et du graphe. Et alors, à l'inverse, en fait, on est face à un film très posé. Sans hip-hop dans la bande son, on est plutôt sur du jazz comme on vient de l'entendre et vraiment des atmosphères très douces, très contemplatives, pas de caméra à l'épaule, hein, je pense que souvent ta caméra est posée, enfin, et vraiment on voit que vous avez choisi un cadre mais serein, même, c'est fou mais c'est serein quand même.
Ouais, c'est ça, c'est un autre style. Moi aussi, hein, je dois t'avouer que j'imaginais aussi des séquences comme ça, c'est-à-dire des séquences caméra embarquée, justement des choses en vandale, enfin ce qui se fait habituellement dans le street art. Après, très rapidement, on s'est trouvé à être davantage dans la campagne qu'en ville déjà. Donc les rapports sont très différents avec les gens, c'est-à-dire que bon, en général, ils vous connaissent assez vite, enfin, on ne peut pas aller se cacher ou que ce soit, donc on était assez visible avec une espèce de vieux camion et tout ça. Donc il y a d'autres rapports qui se nouent, et le temps n'est pas le même, oui. C'est vrai qu'on était plus dans quelque chose de contemplatif, petit à petit. Ça, c'est plutôt le voyage qu'a orienté comme ça, hein. C'est ça, moi ça que j'aime dans le documentaire, c'est qu'on a beau fantasmer tout ce qu'on veut, au final on arrive à être autre chose. Quoi.
D'accord, c'était pas un choix d'entrée de...
Bon, après, moi, oui, ce que j'aime bien, c'est quand même les choses très cadrées, c'est la photographie allemande, et je trouve Fougourski, c'est vrai que je suis inspiré par ça, donc ouais, peut-être, il y a aussi un style que j'ai au départ. Bilal, lui, je peux pas trop dire avant, il aime pas les choses stéréotypées, c'est vrai qu'en général, les films de street art, on se demande un peu pourquoi, mais il y a un peu cette illusion d'urgence, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un style, quoi, qu'on se donne, je me demande, ça justifie pas tout le temps d'être caméra à l'épaule, par exemple, j'ai toujours trouvé ça bizarre, ou surdécoupé, enfin, tu vois, pourquoi, quoi, pourquoi faire comme ça? L'idée, c'était un peu de s'adapter aux différents moments du film, aux différents moments du voyage, qui sont devenus les différents moments du film, c'est-à-dire que de retranscrire, de pas être systématique dans la retranscription, d'où l'intérêt de bosser aussi avec des séquences en dessin, tu vois.
Et même le sujet, enfin, c'est pas des grosses bombes arrivées au sol, des gros lettrages, etc., Bilal, il peint des vaches, des poules et des gens.
Ouais, alors c'est marrant parce que si on peut lui demander, mais si vous lui demandiez pourquoi est-ce qu'il peint une poule, il vous dira parce qu'il y en a, quoi. Donc en fait, c'est très difficile de savoir pourquoi. Il adore dessiner des animaux. C'est vrai que même à Paris, je sais pas si son travail était plutôt poétique, c'était pas forcément militant, c'était pas forcément, il n'y avait pas un message asséné, c'était plutôt des phrases qui prêtaient à la rêverie, ouais, à la poésie. Donc pourquoi est-ce qu'il y a des animaux? C'est vrai que par exemple en Ukraine, c'est la première chose qui nous a marqué. On arrive en Ukraine, il y a des poules partout, donc tout d'un coup il y avait ça. En Suisse, il y avait une vache, mais il avait une manière de travailler très spontanée, en fait, très... il réfléchit, je sais pas, mais il verbalisait pas déjà du tout, et c'était très... ça naissait comme ça d'un coup, quoi. Très instinctif, je dirais, quand même.
Oui, on voit, il a toujours son carnet de croquis, on voit que c'est un croqueur, un illustrateur, en fait... En continu, enfin son moyen d'expression, quoi. Et après, pour revenir un peu à la question de quiétude, et peut-être en vis-à-vis de street art, on a l'impression que vous n'avez jamais peur de vous faire prendre, ou de, enfin, quand il fait ses fresques, c'est détendu, il y va posément, même si c'est monumental et que c'est au bout d'un rouleau d'une perche de 6 mètres, moi je me demande comment il fait pour être aussi précis, mais ça c'est une autre histoire. Et quand même, est-ce que vous étiez du coup accepté, est-ce que les gens attendaient ou cautionnaient ce que vous faisiez,
Alors,
c'est juste parce que c'est désert.
Moi, je pense que où on a le plus risqué d'avoir des ennuis, c'était en Suisse, en fait. Parce que là, on est parti Fissa, quand il a peint l'énorme vache sur le chalet suisse. Là, je pense qu'on aurait pu avoir des problèmes. Après, en Russie, assez rapidement, on comprend le mode de fonctionnement, qui est finalement, moi, je trouve assez rassurant par rapport aux idées préconçues qu'on peut avoir des Russes. Parce que tout se négocie, en fait. Même pas financièrement, hein, mais c'est possible de parler, d'expliquer. Et surtout, moi, ce qu'on a pu voir, c'était une réelle bienveillance vis-à-vis des artistes, je ne sais pas si c'est un bien grand mot, mais des dessins, de l'art du projet en lui-même. Donc, et ça, c'était un peu, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais pour les Russes, il est impossible de faire des choses sans autorisation. Bon, ça, il y a évidemment du passé soviétique, c'est-à-dire que c'est quand même très, très protocolaire, enfin très bureaucratique comme société encore maintenant. Donc, quand ils voyaient qu'il commençait Bilal à repeindre des façades entières, ils ne pouvaient pas imaginer que ce soit fait comme ça sans autorisation, sans demander à l'autorité supérieure, enfin, moult autorités supérieures. Donc, il y avait cette espèce d'interrogation, voire de sidération. Les premières réactions, je ne sais pas si tu vois, c'est qu'en général, on a l'impression que les gens ne font pas trop attention. Mais en fait, ils sont habitués aussi, les Russes, à ne rien montrer, à ne rien témoigner, justement, à faire l'air de rien. Donc, au début, c'était déstabilisant. Par exemple, pour Bilal, qui est habitué à peindre et qui a tout de suite beaucoup de gens, un attroupement tout autour de lui et tout ça. Là, non. Quoi. Là, les gens passaient, ils faisaient semblant de ne pas voir, et après, ils revenaient. Et après, il y avait des discussions. Mais est-ce qu'on a eu des problèmes? On n'a jamais eu vraiment de problèmes. Bon, après... Bon, il y avait des gardiens qui s'apercevaient au bout d'un moment qu'on n'avait pas demandé l'autorisation. Donc, ils arrivaient, ils étaient quand même sidérés qu'on ait pu faire ça, comme ça, sans demander. Bon, donc, c'était tendu 5 minutes. Mais alors après, on pouvait expliquer, discuter, et puis, voilà, ça se finissait systématiquement par, évidemment, de la vodka. Ça, c'est un cliché, mais enfin, c'est un cliché assez réel. Donc, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple qu'en France. Et même pour Bilal, qui est à Paris, par exemple, il a peint des centaines de fresques dans Belleville. Elles ont toutes été effacées. C'est quand même... Alors qu'en Russie, je pense... l'idée, c'était un peu d'y retourner plus tard pour voir ce qu'il en était advenu. Mais non, il y avait ce respect-là. Et il y avait beaucoup moins de problèmes, en tout cas, avec les autorités. On peut toujours se dépêtrer de situations insolubles, soi-disant.
Et c'est pour ça que vous avez rencontré autant de gardiens. Parce que, ouais. Que vous rencontrez des garagistes, on le comprend, vu l'état du camion. Et après, dans le film, on se dit... bon, il y a un moment, il y a un écran qui dit « Et encore un gardien ?» Mais on s'est déjà fait la réflexion avant, on dit « Mais est-ce qu'il n'y a que des gardiens en Russie ?» C'est dans ce cas-là que vous les rencontrez ?
Ben, en fait, c'est parce que c'était tous des gens qui avaient un métier durant la période soviétique et qui se sont retrouvés gardiens. Parce que ce qu'on a vu aussi, c'est... C'est la désorganisation absolue, disons, post-soviétique, et la véritable nostalgie qu'il peut y avoir chez les pauvres, justement, de ce régime-là. Parce que tous les gardiens avaient d'autres métiers avant. Hein. On a même trouvé des scientifiques qui étaient devenus gardiens. Gardiens de rien, en plus, parce qu'ils gardent plutôt des ruines, et c'est quasiment non payé. Donc, c'est vraiment le système D, surtout en Ukraine, d'ailleurs. Et voilà, et c'est sûr qu'on a assisté à ça, en fait. Vraiment, dans la réalité, les pauvres ont beaucoup plus perdu que gagné avec la chute de l'Union soviétique. Et on finit gardien, ou alors des tout petits boulots qui gagnent plus rien. Quoi. Parce que nous, on n'a pas croisé les oligarques, enfin, on ne traînait pas dans des milieux privilégiés, ou on n'a pas rencontré ceux qui sont enrichis. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gardiens. Ouais.
Parce que donc, dans ce film, donc, vous parlez très peu, par contre, les gens que vous rencontrez parlent. Et donc justement, je m'étais posé la question, donc, énormément de gens expriment justement cette nostalgie de l'époque communiste. Et si c'était un parti pris de ta part, ou si c'était vraiment représentatif de...
C'était représentatif, en fait. Parce que nous, on arrivait avec relativement peu d'idées préconçues. Enfin, je dis ça en même temps, moi j'adore la Russie, et puis je devais fantasmer la Russie du 19e, enfin bon, comme beaucoup, à travers les auteurs et tout ça, mais on a découvert quand même des choses au contact des gens, parce qu'on n'avait pas, on voulait pas faire un film à thèse, par exemple, on n'avait pas du tout, on revendiquait pas de faire un truc sur tel ou tel sujet, on s'est dit, on y va, laissons-nous, je sais pas, inspirer par ce qui nous entoure, essayons quand même de comprendre à notre modeste niveau la société russe, ou en tout cas les gens qu'on rencontre, et de retranscrire au mieux justement ça. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est aperçu de cette nostalgie qui n'était pas forcément antinomique avec le fait d'aimer Poutine, par exemple. Il y a un réel soutien de Poutine. Peu de dissidents. Nous, après, on était dans les campagnes profondes. Alors j'imagine que dans les villes, c'est peut-être différent. Mais voilà, moi, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Et surtout à quel point le point de vue des Occidentaux était biaisé, quoi. Mais bon.
Et justement, vous étiez en Ukraine en 2012, donc un an avant les Maïdan, et etc. etc. Et vous aviez ressenti ça ou pas du tout ?
Pas vraiment, mais on était nous à Odessa, surtout, qui est une ville russophile.
Et qui est maintenant russe d'ailleurs.
Bah, c'est proche de la Crimée, mais c'est resté ukrainien. D'accord. Mais est-ce qu'on a ressenti ça? C'est difficile de dire. Les gens qu'on rencontre, par exemple, nous parlent de Yanukovych en disant oui, c'est un bandit, il était en prison, maintenant il est à la tête de l'État. Donc ils étaient déjà très conscients justement du caractère absolument corrompu, totalement corrompu des politiques. Mais c'était le cas de tout le monde, hein. C'était le cas aussi de Yulia Tymoshenko qui y était avant. Donc il y avait une sorte de. Enfin, ils étaient désabusés, quoi. Disons qu'ils ne croyaient plus. Plus du tout en un homme providentiel, enfin en tout cas en la politique, ça c'est sûr. C'est vraiment, oui, le système D, ils ne gagnent rien, ils se débrouillent par eux-mêmes. Donc après, non, ça je mentirais si je disais que j'aurais pu anticiper ce qui s'est passé. Hein. Je pense que enfin, peu de gens en tout cas. Mmh. Puis moi j'ai un très modeste niveau en russe, donc c'est quand même difficile. Mais Odessa est une ville atypique, c'est-à-dire que nous on est passé à Lviv, qui est une ville de nationalistes ukrainiens, mais on n'a pas resté à Lviv. Et c'est Kiev en fait où il y a vraiment le. Ouais, qui est le centre des dissidences, et puis c'est là où c'est né. Mais Odessa, c'est plutôt pro-russe.
Bon. Et l'autre question que je m'étais posée, en fait, c'est du fait. Donc, c'est vrai que le street art, on l'imagine dans des friches industrielles, des locaux abandonnés. Et donc, je me posais la question, c'est si vous avez rencontré autant de gardiens et qu'on voit autant de bâtiments abandonnés, c'est à cause du street art, ou bien c'est parce que c'est ce qu'il y a en Ukraine?
Ouais, c'est un peu ça, c'est que nous on s'était dit, bon, on va essayer de trouver des usines abandonnées, et on est arrivé en Ukraine et c'est un pays abandonné, il n'y avait vraiment rien, et donc des surfaces infinies, et ce qui était un peu trop peur, c'est qu'on s'est dit, en même temps, génial, parce que c'est absurde comme réaction, mais il y a des supports, on va pouvoir faire des choses, et puis en plus il y a tout cette espèce de fantasme sur les ruines, c'est très beau, esthétiquement, et en fait on s'est aperçu que tout était gardé, en fait. On a l'impression que c'est complètement en ruine abandonnée, et non, il y a des gardiens partout, donc ils commençaient à peindre, et puis tout d'un coup les gardiens ont tombé dessus... Et devait appeler les propriétaires, je sais pas trop. On voyait pas trop les propriétaires, mais voilà.
Et après, moi je voudrais revenir. Tu parlais d'Odessa il y a un moment, et de la possibilité que tout se négocie, tout s'arrange. Mais quand même, à un moment, vous vouliez faire un projet à Odessa. Enfin, tu me dis, hein, si tu dévoiles trop du film, en même temps, c'est pas un film à suspense. Donc, et pour faire ce projet, vous avez dû négocier pendant un mois. Donc c'est quand même pas si évident que ça. Ça se passe pas toujours avec une bouteille de vodka.
Ah bah là c'était compliqué parce que c'était sur les escaliers Potemkin, qui est quand même en fait le monument emblématique de la Révolution d'octobre. C'est vraiment le lieu incontournable des tours opérateurs, c'est ultra touristique et tout ça. Et ça c'était la seule chose que Bilal avait anticipé avant d'y aller, c'est-à-dire ce projet-là. On avait contacté l'Alliance française parce que rien n'était fait avec les autorisations sauf ça. Et là c'était impossible parce que c'était complexe à installer et tout ça. Donc on avait un peu contacté l'Alliance française qui nous avait dit peut-être envisageable, donc on est arrivé sur place avec ce projet d'installer 150 toiles enfin, de gens dévalant c'est des pochoirs
c'est une installation éphémère aussi
Et donc là après il a fallu négocier, alors c'est compliqué parce que moi je parlais mal russe, donc heureusement on passait par des gens de l'Alliance française, mais au début on demandait de l'aide, et puis bon là c'est toujours un peu compliqué, puis après on a dit bon on finance tout et on fait tout à deux, et puis là ça a fini par se débloquer. Mais il faut se dire que l'équivalent en France ce serait genre, je sais pas, les Champs-Élysées ou quelque chose comme ça, ce serait impossible parce que il y aurait des contraintes, tout serait restrictif j'imagine, parce que nous c'était une installation mais qu'on a fait nous-mêmes, donc il y avait une commission de sécurité qui est venu voir, mais au moment où ils ont branché l'électricité, tout a cramé, parce que les lampadaires étaient reliés à des câbles, on a mis des fils électriques, c'était la catastrophe, quoi. Et pour régler le problème, il a enlevé un fusible, donc c'est pour ça que finalement, ça réussit à passer, quoi. Parce qu'ils sont moins à cheval que nous sur la sécurité, sur tout ça, et Dieu merci, quoi. Donc ça permet de faire beaucoup plus de choses, je pense, qu'en France. Mais c'est vrai que c'est la seule installation où ça nous a quand même pris du temps, de négociation. Mais une fois qu'on a dit qu'on payait tout, là, ça a été
d'accord,
quand même
ça
beaucoup
plus simple. Ce serait plus difficile d'installer un truc sous l'Arc de Triomphe
C'est infernal,
D'accord.
Ouais.
Et puis, je me demandais si on parlait du fait que les œuvres de Bilal étaient recouvertes en France, pas forcément là-bas, mais surtout du fait de ce film, elles sont figées aussi. Dans le film, c'est quelque chose qui compte en fait quand on va filmer du street art, quand on va filmer une œuvre en devenir, la fixer un peu dans la mémoire en fait.
Ça devait être une intention, je pense, de Bilal au départ, parce que c'est vrai que c'est lui qui avait cette idée de partir avec un réalisateur, de partir comme ça. ce qui devait se dire que ça pouvait, oui, ça pouvait se pérenniser peut-être davantage. Peut-être qu'il était frustré par le fait d'être systématiquement repassé, effacé. Ouais. Comme c'était le cas à Paris, hein. Parfois il y mettait un temps fou et tout ça, et immédiatement c'était effacé, sans du tout qu'on s'intéresse à ce que ça représentait. Donc oui, là ça a figé. Bah, qui plus est, en plus avec ce qui est arrivé à Bilal, oui, ça donne plus de force symbolique au film, en tout cas, l'idée d'avoir conservé ça. Nous, on avait l'idée de retourner éventuellement sur les lieux, genre 5 ans plus tard, pour voir comment les gens appréhendaient les dessins. Est-ce que c'était différent, tu vois, bah, d'ici, dans France? Est-ce qu'ils allaient peut-être les protéger, repasser les couleurs? Enfin, les couleurs, c'est du noir et blanc, surtout du noir, d'ailleurs, hyper dense. Et donc, est-ce qu'ils allaient conserver, ou l'effacer, ou pas, ou repeindre? Mais bon, ça n'a pas pu se faire. Mais c'est vrai que oui, là ça conserve, et surtout, c'est ce que je disais au départ, c'est que moi j'ai impliqué Bilal dans le processus de narration, donc il a fait aussi des choses exprès pour le film, pas en street art, mais redessiner, par exemple quand on est dans le train, moi ce que j'avais filmé, ça témoignait pas vraiment de l'ambiance du train. Donc là, après coup, il a filmé, puis on a fait un système de maquette, comme dans le film. Donc là, il y a en plus ça. Il a fait à la fois un boulot de... C'est à la fois un film sur, oui, un street artiste, enfin un peintre qui fait des peintures in situ, mais également un boulot plus avec un... C'est pas de l'animation, mais disons...
Si, quand même. Ouais, un peu. Moi, j'appellerais ça de l'animation, enfin stop motion peut-être, mais...
Ben, en fait, on fait pas de l'image par image, c'est-à-dire qu'on anime par des mouvements de caméra le dessin, mais ça reste des dessins, ce qu'on voulait. Oui,
il y a un petit côté pop-up mobile, en fait, sur lequel il y a un travelling. Et effectivement, c'est des séquences qui rythment super bien le film. Enfin, tout ça, c'est un régal, ouais.
Et c'est justement, enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti le moment où le réalisateur et le dessinateur vraiment font un truc ensemble. C'est pas un réalisateur qui filme un dessinateur, et c'est des séquences qui étaient prévues dès le début du projet, ou bien c'est ensuite
il y avait des choses qu'on avait envisagées, qu'on avait fantasmées, et des possibilités éventuellement, mais par exemple le train ou le village, et à un moment donné on arrive dans un village. Et là, au lieu d'avoir le village filmé, c'est le village en dessin. Ça s'est fait sur le lieu, parce qu'il a décidé de dessiner toutes les maisons. Et encore une fois, c'était beaucoup plus empirique. Ça permettait beaucoup mieux de rendre l'ambiance du village par le dessin que par la vidéo. Qui a un côté très, très direct, très réaliste, en fait. Beaucoup moins poétique, finalement. Donc c'était en général, les idées venaient in situ, je pense. Et après, il y a des choses qui ont été réalisées plus tard. C'est-à-dire que là, on s'est dit, pour le raconter par le dessin, donc il a dessiné toutes les maisons du village, et c'est après, en post-production, que nous, on a commencé à travailler sur le travelling latéral qu'anime tout ça. Mais en général, c'était les lieux qui... c'était des lieux que connaissaient les idées, ouais.
Et notamment la partie là sur le cuirassé Potemkin, qui est vraiment qui est super, avec des morceaux de celluloïd, etc. Et donc, c'est l'illustration de ce que vous raconte un prof. Et ça, si vous l'avez décidé, ça fait après, en fait, finalement.
Alors ça s'est fait, on avait l'installation donc de Bilal qui voulait faire des choses sur les escaliers Potemkin, et on avait un problème un peu au niveau de... il fallait quand même être un peu pédagogique, parce que tout le monde ne connaît pas les événements qui ont eu lieu, justement sur les escaliers. Donc on avait ce professeur qui était hyper content justement que des gens de nouveau s'intéressent véritablement au sens du lieu, parce qu'il était désespéré par le fait que les Russes, c'est un lieu touristique, mais personne ne s'intéresse vraiment à l'origine, à la raison, en fait. Et donc nous on s'est dit, pourquoi pas, alors fais-nous un résumé, et puis on essayera de l'illustrer à notre manière, quoi. De faire un peu de pédagogie, finalement, et puis pour pouvoir lier à l'installation de Bilal. Donc là aussi, c'est né du tournage et de la rencontre avec cet historien.
Et même plus loin, en fait, je me suis un peu posé la question entre justement le film d'Eisenstein, le cuirassé Potemkin, qui est un film en noir et blanc, avec ce film-là, qui est un film presque muet, qui est rythmé par des cartons, comme le cinéma muet, en fait. Et je me suis demandé, quand vous êtes parti, parce qu'en plus vous dites, on est vraiment très ému d'arriver à Odessa ou à commencer, et voilà, s'il y avait, quand c'est réalisé, s'il y avait un rapport ou pas, ou c'était inconscient ou...
C'est inconscient, je sais pas. Moi j'aime énormément le cinéma muet, parce que c'est l'essence du cinéma, hein. Parce que si maintenant, justement, on demandait à des réalisateurs, même qui marchent, de faire un film muet, ils s'en seraient incapables, hein, parce qu'ils ont besoin à chaque fois d'avoir recours à du texte ou à des béquilles narratives. Et donc, évidemment, moi, c'est ça qui me passionne, c'est de raconter par l'image, de faire sentir. Il n'y avait pas forcément de rapport direct avec le cuirassé Potemkin, ou inconsciemment, c'est vrai que moi j'adore Eisenstein, mais... Mais c'est vrai que cette volonté de raconter par l'image, qui est aussi le travail de Bilal, hein, c'est qu'on est les deux dans des, ouais, dans des médiums de l'image. Quoi. Et c'est ça qui était génial de pouvoir bosser avec un dessinateur, c'est d'avoir cette espèce de complémentarité, des médiums à la fois complètement différents, mais oui, qui sont visuels. Quoi. C'est pour ça qu'on s'est particulièrement entendu ouais, là-dessus. Et les cartons sont arrivés beaucoup plus tard, en fait, au moment du montage, parce qu'on s'est aperçu que ça prenait pas tant que ça, et... on a expérimenté beaucoup de choses au montage. Et ce qui était difficile, c'est de nous transformer, nous, un peu en personnages et de lancer une narration, parce que c'était très hétérogène. Mmh. Tu vois. Il y a plein de séquences différentes et tout ça. Et à partir du moment où on a fait cette espèce de narration à la troisième personne, ça a permis de faire exister déjà des choses en off. Comme on dit par exemple pour Odessa, que ça a été un cauchemar pour dealer les autorisations, mais au final on choisit de ne pas le montrer, donc ça permet de le dire sans le montrer. Enfin bon. Et c'est un peu une narration à la Don Quichotte. Notre référence, c'est les récits de saints, les récits hagiographiques, où pareil, sur un ton assez naïf, ils font ceci, ils rencontrent cela, puis c'est un espèce de précipité d'événements, quoi, un peu à la Tintin. Quoi. Donc c'est vrai que c'est né de ça. Ouais.
D'ailleurs, je recommande à tout le monde de jeter un petit œil avant ou après sur la bande-annonce du film hein, qui est disponible en ligne. Il suffit de taper « C'est assez bien d'être fou » et on tombe très vite sur cette bande-annonce qui nous apprend plein de choses sur le film. Hein. Il y a notamment une énumération que je ne vais pas faire, hein, j'hésitais, mais je ne vais pas tout sortir. J'invite plutôt tout le monde à cliquer là-dessus et pour aller découvrir la grosse addition qu'il y a derrière ce film. Hein. C'est pas en euros. Hein.
Non, moi j'aurais une petite dernière question qui est assez anecdotique, mais je sais qu'une de nos fidèles auditrices est également une téléspectatrice assidue de Vosges Télévision Image Plus, qu'elle regarde tous les matins. Et comment Vosges Télévision Image Plus s'est retrouvée embarquée dans ce camion pourri qui part en Sibérie?
Déjà, je suis content d'apprendre qu'il y a des spectateurs de Vosges Télévision Image Plus parce que
et oui, moi, et qu'ils nous écoutent.
Je les en remercie. C'est bien que ça ait été vu à la télé. Alors comment ça, c'est un peu des choses de, c'est des productions, c'est la production en fait. Il s'avère que le dernier espace, moi, je trouve de liberté, parce que quand vous déposez un dossier, il faut un préachat de chaîne, en gros, donc, et toutes les chaînes hertiennes calibrent, hein, c'est-à-dire que dès qu'on dépasse 52 minutes, c'est plus possible, dès qu'il n'y a pas une voix off qui explique, qui paraphrase l'image, c'est impossible, enfin bon, bref. Donc, ils financent bien, les grosses chaînes financent beaucoup, mais interviennent à tous les niveaux. Avec Image Plus, puis certaines chaînes du câble qui ont l'agrément CNC, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'argent, mais il y a une liberté totale. Et moi, à choisir, j'hésite pas une seconde. Hein, donc, je suis très tranquille. Là, avec Image Plus, j'ai pu faire une version quand même d'un film d'1h45 et justement avoir vraiment un rythme. Oui, un rythme assez lent, on peut rentrer petit à petit dans le film et tout ça, ce qui est complètement interdit par les chaînes hertziennes. Arte, d'ailleurs, pareil. Hein, Arte, il y a quelques exceptions, mais c'est les plus interventionnistes. Hein. Arte, c'est eux qui font le montage, en gros, des films. Donc, Image Plus, ben voilà, c'est... c'est qui, c'est Dominique je vais pas m'avancer là-dessus, je me rappelle plus du nom, je n'ai pas eu de vexer. Mais donc, il y a des rapports avec mes productrices, mes deux associés, là, et qui s'entendent bien. Et donc, c'est quelqu'un qui nous permet, en tout cas, d'être libre, de faire des films auxquels on croit, quoi. Donc, c'est vraiment agréable. Je ne sais pas si ça va durer, d'ailleurs. Mais, ouais.
Et donc, tes projets maintenant ?
Ça va un peu dans tous les sens. Là, j'ai des gros projets en histoire de l'art, sur l'iconographie religieuse et sur une enquête sur un tableau anonyme de la Renaissance. Je termine un documentaire sur un village des Cévennes, qui raconte la vie des habitants qui sont arrivés dans les années 70, en fait les néo-ruraux. Donc,
Et une petite part d'autobiographie familiale, tu nous disais, non ?
Disons que c'est... Oui, enfin, moi j'ai une maison dans ce village, mes parents ont acheté à ce moment-là. Ouais. On n'était pas... C'est pas notre résidence principale, mais c'est vrai que oui, ça vient de là. C'est que je connaissais tous les personnages, donc ça a facilité vraiment les échanges. Il y avait une certaine confiance, donc voilà, je suis en train de terminer.
Et ça sera visible bientôt ?
Ouais, ça sera visible bientôt. Alors, je sais pas trop comment, parce que c'est un peu stressant de montrer à ceux qui sont filmés, parce que je pense qu'il va y avoir des tensions... Ils vont tous se trouver, je sais pas. Ceux qui y sont pas vont être vexés de palette, ceux qui y sont auraient préféré une palette, je sais pas. Mais donc, je sais pas encore, il faut être, disons, assez stratège pour le lieu de diffusion. Il faudrait un lieu neutre. Ça va se faire, je pense, avant décembre. Là, je suis en train de finaliser le graphisme.
C'est après bientôt, parce que bientôt, en termes cinéma, parfois, c'est plusieurs mois. Ouais.
Non, là je suis en passe de terminer. Je suis dans la post-production graphique. Fait,
D'accord. Ouais. Bon, mais on te revoit bientôt à l'antenne de Bartas.
Peut-être, si vous aimez, c'est pas gagné encore.
Donc en tout cas, pour voir ce film, donc on l'a dit, c'est alors à chaque fois, c'est avec Antoine qui est là, en vrai, en chair, en os, dans la salle, pour continuer cette discussion avec vous. Donc c'est à Florac, donc mercredi à 21h. Ensuite jeudi, c'est au Pont de Montvert, cette fois-ci c'est à 20h30, donc attention, arrive à l'heure. À Ispagnac, vendredi à 21h. Et Saint-Martin-de-Lonsusque le samedi, Saint-Étienne-Vallée-Française dimanche, donc 20h30 également, et à La Salle, donc là c'est super loin, je ne sais pas si on nous reçoit à La Salle, le lundi 22 septembre.
On nous reçoit partout, hein, www.radiobartas.net.
Exactement.
Même dans les Vosges.
Ouais, mais exactement, même dans les Vosges. Coucou maman. Bon, merci en tout cas Antoine.
Merci.
Et puis donc, bah, on va se voir bientôt dans les salles de cinéma.